Et on s'en va pour notre entrevue para du jour rejoindre Yvon Provencher, agent de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour Yvon.
Bonjour.
Donc vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler en fait d'accessibilité universelle parce que il y aurait des aménagements urbains qui ont été conçus par la ville qui la respecteraient pas systématiquement cette accessibilité universelle. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui explique, selon vous, en fait, que malgré le fait que la ville de Montréal se soit dotée de divers plans, on fasse encore des aménagements qui ne respectent pas ces principes d'accessibilité universelle?
On en aurait pour des heures à parler de ça. Mais disons que on est dans une ville compliquée dans sa gestion. Alors, on a un conseil de ville, mais qui a délégué beaucoup de pouvoir à ces arrondissements. Et il existe des outils à la ville pour aider les gens à faire des aménagements universellement accessibles, mais il n'y a pas d'obligation de les respecter. Donc, et ces outils-là, la plupart du temps, sont produits par les services centraux. Donc, avant que ça descendre dans les arrondissements, que les gens se les approprient, les comprennent. Ça prend beaucoup de temps. Et étant donné qu'il n'y a pas d'obligation, c'est toujours possible pour quelqu'un de déroger et de ne pas faire ce qu'il devrait faire.
C'est intéressant, ça. Donc, est-ce que ça devrait peut-être passer par l'instauration d'une obligation, justement, en matière d'accessibilité universelle, selon vous, Yvon?
C'est une obligation, ça suffit pas. Hein. Si on rend les choses obligatoires, il va aussi falloir qu'il y ait du soutien qui va être donné aux différents services municipaux. Là, c'est ça, parce que obliger quelqu'un à faire quelque chose, c'est une chose. Mais après, il faut que les gens puissent savoir comment les faire correctement. Donc, il y a quand même des outils là qui ont été développés avec des explications assez claires, mais dans la réalité, on se rend compte que quand bien même on pense que c'est très très clair sous la forme écrite, ben dans la réalité, les gens la comprennent de différentes manières. Donc, faut quand même, je pense, qu'il y ait l'accompagnement qui soit donné aux employés municipaux qui sont responsables de faire du design et de l'aménagement là. Mais oui, il faudrait c'est toujours la question dans ces débats-là de est-ce qu'on incite ou est-ce qu'on oblige?
Oui.
On incite en espérant que ça marche. La ville a une politique en accessibilité universelle depuis 10 ans. Mm-hmm. Les outils ont été créés, ils existent. Il y a de l'amélioration, mais il y a encore beaucoup à faire. Et la pandémie a comme servi aussi un petit peu de... comme beaucoup d'autres domaines dans notre société, de nous montrer que il y a des choses qui ne fonctionnent toujours pas. L'année passée, la ville disait on agit dans l'urgence. Oui, mais cette année, on n'est plus vraiment dans l'urgence et pourtant, il y a encore des problèmes.
Oui, parce que ça semble évident là, qu'on ne pense pas assez tôt dans le processus d'aménagement à l'accessibilité universelle. Vous nous disiez, il y a quelques secondes, est-ce qu'on incite, est-ce qu'on oblige? C'est toujours une question un peu difficile à laquelle répondre. Est-ce qu'il y aurait un des facteurs là pour voir une amélioration prochainement? Est-ce que ça pourrait également passer par la formation des divers professionnels qui conçoivent ces aménagements-là ou par une autre solution?
Clairement que la formation, il y en a déjà eu de la formation de donner à la ville, mais ça se fait en tout petits morceaux, des petites équipes à la fois. C'est pas clair pour moi que la ville a vraiment un plan très clair sur le fait d'outiller ses employés à faire de l'accessibilité universelle. Il y a une volonté plus ou moins, je dirais, ferme dans certains services de faire quelque chose, mais je pense pas qu'on est dans une vision encore très structurée de qu'est-ce que ça veut dire faire de l'accessibilité universelle dans la ville de Montréal. Puis quand on parle plus précisément de la question des aménagements, ben les outils existent et pourtant sont plus ou moins utilisés. Et je vous dirais, si on va prendre l'exemple, par exemple, du plateau Mont-Royal cette année,
oui.
Où déjà l'année passée, on avait identifie à l'arrondissement le fait que vu que la rue Mont-Royal est piétonnisée, ben, il y a certaines intersections que la rue Mont-Royal traverse qui sont très importantes. Et pourtant, on a repris exactement la même approche que l'année passée. On piétonnise Mont-Royal sur une distance de quelques kilomètres. Mais le problème des traversées de rues importantes n'est toujours pas réglé. Et je vous rappelle que pour une personne qui a une déficience visuelle, être capable d'avoir de la circulation automobile, c'est très utile, c'est même nécessaire. Alors, quand on perd cette information-là, bien, tout à coup, on est vraiment pris au dépourvu. Traverser la rue Papineau, quand on ne sait pas si la lumière est rouge ou verte, c'est dangereux.
Ah oui. Et là, vous
pourtant,
nous dites,
cette année, on est exactement dans le même cas de figure. L'année passée, on nous a dit c'est parce qu'on est en mesure d'urgence. Mm-hmm. Bon, OK. Mais cette année, on n'est plus en mesure d'urgence. Là, c'est pour revitaliser la rue. Très bien. Mais encore une fois, cette année, les personnes qui ont une déficience visuelle sur la rue Mont-Royal, s'ils l'utilisent pour se déplacer, c'est un axe qui peut être problématique.
Oui, parce que vous nous disiez que c'est important, la circulation automobile. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus pourquoi c'est important pour une personne qui aurait un handicap visuel que d'avoir une circulation automobile? Qu'est-ce que ça permet?
Oui, alors, la circulation automobile à une intersection contrôlée par des feux de circulation, ça permet deux choses. Ça permet d'abord de déterminer le moment où on peut traverser la rue, donc le moment où on peut amorcer sa traversée. On utilise la circulation parallèle pour faire ça, donc la circulation qui se déplace dans le même sens que nous, ou en tout cas de manière parallèle, ça peut être à contresens ou dans la même direction. Et l'autre chose que la circulation automobile permet, c'est que pendant la traversée, ça permet de maintenir un alignement pour faire une traversée sécuritaire. Quand on n'a plus cette circulation automobile-là, il est impossible de déterminer le moment de commencer sa traversée et en plus, ben on peut pas maintenir d'alignement parce qu'on perd complètement cette information-là. Mm-hmm. Juste pour rappel, là, Mont-Royal, ça traverse Saint-Laurent, Papineau, Saint-Denis, Delorimier.
Toutes de très, très grosses artères, là.
Voilà.
Donc, merci.
Ça, c'est sans compter les petites rues transversales, là, qui parfois ont une circulation automobile qui est intermittente. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y a quelques années, de me faire prendre comme ça. J'étais sûr que je pouvais traverser une petite rue qui était contrôlée par un feu de circulation. Puis heureusement qu'il y avait un piéton derrière moi qui m'a arrêté parce que je me faisais frapper.
Ah oui. Donc, on comprend vraiment mieux pourquoi c'est important là, d'avoir une certaine circulation automobile. Et Yvon Provencher, je rappelle que vous êtes agent de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. On a parlé de ces problèmes un peu d'aménagement au travers la ville. Quelles sont les conséquences sur l'autonomie puis l'intégration sociale là, des personnes qui sont non-voyantes ou qui sont malvoyantes, par exemple?
Oui, ce qui est un des enjeux en accessibilité universelle, c'est de rester à jour sur les nouvelles tendances en aménagement. Et donc, les solutions qu'on connaît qui marchent bien pour certains types d'aménagement, ben pour de nouveaux types d'aménagement, ça fonctionne moins. Par exemple, les outils actuellement qui sont développés à la Ville de Montréal, c'est concernant, entre autres, les aménagements là sur des aménagements plus conventionnels. Ce qu'on n'a pas fait encore et ce qu'il faudra éventuellement faire, parce que ça peut être une tendance qui est là pour rester, ça va être de développer des lignes directrices sur qu'est-ce qu'on fait avec des rues piétonnisées.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, que quand on décide de piétonniser une rue, ben il va falloir systématiquement qu'on installe des feux sonores aux intersections contrôlées par des feux de circulation? Si on a ça, ben on vient de régler un gros problème de mobilité.
Oui, le problème que vous nous décriviez plus tôt, là, il se posera plus si on a ces feux sonores.
Exactement. En même temps, là, il faut s'assurer qu'on continue de garder les trottoirs libres d'obstacles et, bon, toutes ces questions-là. Là. Mais, donc, les rues piétonnes, ça va devoir faire partie d'un sujet sur lequel il faudra se pencher puis avoir une ligne directrice. Les conséquences, c'est que les gens qui veulent se déplacer dans des environnements comme ça, ben, s'ils veulent le faire de façon autonome, c'est un petit peu à leur risque et péril là, dans mm-hmm. certaines situations, surtout quand on a une rue qui traverse des rues importantes. C'est pas toujours vrai, là. Il y a des secteurs dans la ville où c'est moins un enjeu, Mais un axe comme la rue Mont-Royal, il faudrait y penser à deux fois, là.
Tout à fait.
Puis, tu sais, alors, c'est quoi la conséquence sur la vie des gens? Ben, je vais vous parler de mon cas personnel, puis là, je pourrais pas généraliser à tout le monde, mais moi, l'été, la rue Mont-Royal, et pourtant, la rue Mont-Royal, c'est un axe durant l'année que j'utilise très régulièrement, ben, durant l'été, le moins possible.
Ah
Donc,
oui.
il faut que je planifie mes déplacements, il faut que je m'organise pour que dans mes déplacements, j'ai à me déplacer le moins longtemps possible sur la rue Mont-Royal, parce que c'est juste pas un
C'est juste
dans ce
pas.
cas-là, c'est pas un environnement qui est convivial. Donc, ça change les façons dont les gens se déplacent, ça les amène à prendre des décisions, parce que une personne aveugle ou une personne malvoyante qui se déplace dans la ville, sa première préoccupation, c'est sa sécurité. Donc, si un aménagement vient diminuer sa sécurité, ben, faut soit qu'elle évite complètement cet aménagement-là, ou si elle y va, ben, il faut prendre des précautions, puis il faut essayer de. Donc, c'est une contrainte, là. Ça, c'est des contraintes qui peuvent être assez importantes aussi, là. Quelqu'un qui est habitué d'utiliser la station de métro, par exemple, la station de métro Mont-Royal, ben là, peut-être qu'il faut changer son trajet. Donc, ça veut peut-être dire devoir se familiariser avec peut-être une nouvelle station de métro, un nouveau parcours. Ça peut être assez important là, quand
Ben
même
oui, on le
dans la
comprend
vie des
bien
gens, là.
en vous écoutant, Yvon Provencher, que ça vous empêche carrément d'avoir accès à certains lieux. Et ça, c'est vraiment, on est très très loin des principes de l'accessibilité universelle, là, quand ça force des gens à, par exemple, comme votre cas que vous nous décriviez, à carrément cesser votre utilisation de la rue Mont-Royal, c'est problématique. Merci beaucoup, Yvon Provencher, agent de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler ce matin.
Ça fait plaisir.
Au revoir.